Bonsoir. Le blocage persiste au dialogue politique alors que ce forum devra en principe se clôturer ce mercredi 14 septembre 2016. L'opposition et la majorité maintiennent chacune leur position. Pour l'opposition, le scrutin devrait commencer par l'élection présidentielle couplée aux législatives et provinciales, tandis que la majorité soutient qu'il faut plutôt commencer par les locales. De son côté, le facilitateur exhorte les deux composantes politiques à planir leurs divergences pour ne pas perdre du temps. Comment débloquer cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 14 septembre 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat André Alatundu, porte-parole de la majorité présidentielle et délégué au dialogue politique. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur José Tasoki, vice-président en charge du processus électoral au CDR, parti politique de l'opposition. Il est aussi délégué au dialogue politique. Professeur Tasoki, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Blocage aux travaux du dialogue national à Kinshasa, les parties prenantes, majorité et opposition, n'arrivent pas à planir leurs divergences. Depuis la suspension de la participation de l'opposition aux travaux du dialogue, chaque parti campe sur sa position. Selon les sources sur place, la journée de ce mercredi est passée sans la reprise des travaux, telle que souhaitée par le facilitateur Edem Kodjo. Askenzibia nous en dit plus.
Au Grand Hôtel de Kinshasa, l'ambiance des négociations n'était plus intense toute l'avant-midi comme cela a été observé hier mardi. Selon les sources, l'opposition s'était réunie mardi soir à Gébé, dans la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour consolider sa position. L'opposition affirme toujours qu'il faut tenir la présidentielle avant les locales. Elle dit attendre une concession de la part de la majorité qui s'en tient à la tenue des élections locales avant d'autres scrutins. Selon plusieurs participants, les négociations entre les deux partis risquent de se prolonger. Par ailleurs, une autre catégorie de députés nationaux, tant de l'opposition que de la majorité, s'apprête aussi à donner un autre avis au cours de ces négociations sur la séquence électorale. D'après d'autres sources, ces élus pensent qu'ils ne pourront pas accepter que la présidentielle soit couplée avec les législatives. D'après leur entendement, il faut coupler la présidentielle avec les provinciales afin de faire partie d'abord les députés provinciaux, les sénateurs et les gouverneurs dont les mandats sont largement dépassés, puisque selon ces députés, leur mandat court encore jusqu'au 15 février 2017.
Nouvelle onde de la prendre, un accord a été finalement trouvé entre la majorité présidentielle et l'opposition autour de la divergence qui divisait les deux composantes. Dans un tweet, le facilitateur Edem Kodjo annonce que la présidentielle et législative nationale et provinciale vont être organisées le même jour. Quant aux élections locales, elles auront lieu après si les moyens les permettent. André Alatundu, je rappelle que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle et délégué au dialogue politique. C'est une bonne nouvelle d'apprendre que finalement une solution a été trouvée.
Bien sûr, parce qu'il s'agit de négociations. Cela signifie que chacun a mis un peu d'eau dans son vin et puis l'essentiel a été sauvé, c'est-à-dire préserver la perspective des affres de la guerre à la suite d'un processus électoral inhabitué, inapproprié et non consensuel. Évidemment, ça c'est au niveau du principe, mais maintenant, le plus dur, j'allais dire, reste à venir, c'est la faisabilité qui sera traduite par le calendrier lui-même.
Vous pensez que ça sera difficile d'organiser les mêmes jours les élections présidentielles, législatives et provinciales?
La question ne doit pas m'être posée, c'est à la CENI de capitaliser ou de prendre en compte cette position politique pour le traduire en termes techniques.
En tant qu'analyste, vous pouvez donner votre avis. Est-ce que c'est faisable? On peut le faire.
Un analyste n'est pas un devin. Il part des éléments concrets. Alors il faudrait que la CENI me dise si cette solution lui agrée, si il peut le faire, alors en ce mois-là, on peut se prononcer. L'homme politique a pris une décision de principe, comme souhaité par la CENI, alors c'est à la CENI de nous dire de faire tout pour que cette décision politique ait une faisabilité acceptable pour éviter de renégociation sur le même problème.
Et qu'est-ce qui a poussé la majorité finalement à céder parce qu'elle était catégorique, elle était, pour elle, il fallait commencer par les locales.
On ne peut aller en négociation en ayant comme objectif de n'imposer que son point de vue. La négociation, c'est un espace d'échange, de compréhension en vue d'atteindre un objectif commun. Et je trouve que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de quoi tirer gloriole, soit de la part de la majorité, de la part de l'opposition, de la part de la société civile. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, je le répète, c'est de trouver un processus électoral consensuel afin de préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix, le fonctionnement de notre démocratie. Et la chose est faite aujourd'hui, on ne peut qu'en être satisfait sans que cela ne résolve tous les problèmes concrets.
Mais c'était déjà un grand pas que l'opposition puisse accepter la réforme totale du fichier électoral.
C'est un faux débat. La réforme totale n'est pas une concession de l'opposition. C'est un fait social, si je peux ainsi m'exprimer, qui s'est imposé et à la majorité et à l'opposition et à la société civile, particulièrement après les interventions des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, des Nations unies, de l'IFES et de l'AETA.
Mais l'opposition ne voulait pas céder à cette concession, monsieur Atundu. On a suivi quand même les débats.
Non, je vous dis que ce sont des faits qui se sont imposés. Et je prends pour témoin ce propos de monsieur Caméré qui a dit, tiens, les faits finiront par s'imposer. C'était le premier jour du débat. Donc ici, je crois qu'il faut éviter des questions malsaines. L'essentiel, c'est de trouver une solution convenable. Les égos personnels, satisfaits de ceci, satisfaits de cela, n'ont pas de place. Parce que si la majorité avait tenu mordicus, il n'y aurait pas eu de solution. Si l'opposition avait fait de même, il n'y en aurait pas eu. Et donc aujourd'hui, c'est à l'honneur de la démocratie et de la classe politique, avançons de l'avant. Nous ne devons pas, comme on dit, dormir sur nos lauriers parce qu'on a obtenu un accord sur
l'agencement. Certains analystes pensent que c'est une victoire pour vous de la majorité. Parce que l'opposition ait accepté qu'on puisse refondre totalement le fichier électoral.
Je vous dis que ce n'est pas une victoire de la majorité. Ce n'est pas une défaite de l'opposition. Ce n'est pas à cause de la société civile. C'est un fait qui s'est imposé. Tous les experts qui ont exposé, je vous les ai cités, ont dit que le fichier n'est pas utilisable par l'État. Voilà pourquoi la CENI a déjà commencé le processus d'enrôlement et propose 16 mois pour cette opération et un jour de plus pour la proclamation. C'est une évidence. On ne peut pas aller contre les évidences. Contre les faits, les arguments ne valent rien.
Alors, toujours par rapport à la décision qui a été, à l'accord qui a été trouvé ce soir, Edem Kodjo, dans un tweet, cite le ministre de la Justice, Alexis Tshiamwe-Mwamba, qui dit que la RDC va financer seule les élections. Est-ce que le pays a les moyens de financer ces élections?
La même chose. La question doit être adressée au gouvernement. Ici, à l'issue de ces négociations, a été levée la volonté national des hommes politiques congolais, un, de faire les élections, les trois que vous avez dites en même temps, deux, de financer tout seul. Alors maintenant, la faisabilité dépend de la CENI et du gouvernement aujourd'hui.
Merci, Monsieur André Alain Atundu. Professeur José Tasoki, vice-président en charge du processus électoral au CDR, parti politique de l'opposition. Vous êtes aussi délégué au dialogue politique. D'abord, votre réaction par rapport à cet accord qui a été finalement trouvé entre la majorité et l'opposition.
Merci, madame. L'accord a été trouvé non pas non pas parce que l'accord a été trouvé, non pas parce qu'il s'agissait pour un camp de gagner sur l'autre. L'accord a été trouvé parce que, dès le départ, une feuille de route a été arrêtée. Et dans cette feuille de route, les parties au dialogue avaient déjà dit que l'approche juridique, c'est la Constitution et la résolution 2277. En d'autres termes, quand vous parcourez la résolution 2277, il est précisément dit que les partis au dialogue doivent donner priorité à l'élection présidentielle et à l'élection législative. Nous avons été plutôt surpris de voir en plein dialogue la partie majorité qui avait pourtant marqué son accord sur la feuille de route, qui avait validé la feuille de route, qui avait accepté que ces dialogues soient guidés d'une part par la Constitution et d'autre part par la résolution 2277, cette partie en vienne finalement à nous opposer autre chose. J'ai même suivi Monsieur Okitundu remettre en cause la résolution. Ça veut dire, ça vaut quoi cette résolution? Ça n'a qu'une valeur recommandatoire.
Et pas contraignante.
Pas contraignante. Et pourtant, nous avons validé la feuille de route. Moi, je me pose une question sur la bonne foi de la majorité. En d'autres termes, déjà, nous remettons en cause la feuille de route. Si maintenant nous signons l'accord politique, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est ce qui est très dangereux. Nous devons plutôt, dans la mesure où nous disons que nous devons respecter et plutôt penser à l'intérêt général de la population, penser à l'intérêt de ces pays. Nous ne pouvons pas commencer à faire ce genre de volte-face. Finalement, nous avons perdu combien de jours, madame?
Deux jours,
alors que si on s'en était tenu...
La clôture était prévue pour aujourd'hui.
Si on s'était tenu à la résolution, cette question n'aurait même pas fait l'objet des débats. Doit-on commencer par les présidentielles ou par les législatives ou par les locales? Nous sommes venus au dialogue non pas pour parler des élections locales ou municipales. Nous sommes au dialogue parce qu'il y a un problème avec la présidence de la République, avec la fonction du chef de l'État. C'est ce qui nous a amené au dialogue. On n'est pas venu au dialogue pour parler, écoutez, des élections des bourgmestres ou chefs de secteur, je ne sais pas quelle élection. Nous sommes là parce que ça pose problème, la présence de M. Kabila à la tête du pays sans légitimité. Excusez-moi, nous avons eu à payer la caution pour l'élection provinciale. On n'a pas organisé cette élection. Ça n'a posé aucun problème jusque-là. C'est vrai que les candidats qui ont payé, ils disent, mais écoutez, c'est comme s'il y a eu une forme d'escroquerie dans ça. Mais ça n'a pas posé de problème. Mais pourquoi nous sommes venus au dialogue? C'était pour le poste du président de la République. Il fallait revenir à la résolution 2277 et nous y sommes revenus. Et demain déjà, nous allons rentrer
la majorité à la cité de a prouvé sa bonne foi, elle a cédé. C'est bon, on va commencer par l'élection présidentielle, comme souhaité par l'opposition. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire on ne respecte pas à la feuille des routes. Est-ce qu'on va respecter l'accord politique? Ça veut dire que vous mettez un peu en doute la sincérité de la majorité de pouvoir respecter cet accord?
C'est une question que je nous la pose en d'autres termes. Si nous disons, déjà le 27, c'était le 27 août, je crois, lorsqu'on a clôturé, nous avons validé. Et nous sommes arrivés au dialogue, nous avons validé la feuille de route. Ça n'a même pas fait un mois, madame. Vous voyez un peu qu'est-ce qui peut arriver si nous signons l'accord politique pour finalement engager tout un État dans l'organisation de l'élection. Vous avez suivi M. Alain Atundu, il a dit, c'est vrai, que nous devons procéder à la refonte totale du fichier électoral. Ça nous prendra 10 mois. Les experts ont dit 10 mois.
Et on vous accuse, vous de l'opposition qui prenait part au dialogue, d'avoir consacré le glissement.
Non, nous n'avons pas consacré le glissement. Nous sommes en face d'un fait accompli qui a été organisé, malignement par la majorité. Et si vous suivez très bien ce que disent tout analyste, la crise ici est artificielle. Et on vous a imposé une crise et puis on vous dit, écoutez, regardez, nous ne sommes pas en mesure d'organiser l'élection. Mais nous faisons quoi? Nous appelons les experts. L'OIF est passé. Les Nations Unies sont passées. Ils ont dit, bah, écoutez, vous avez le choix. Soit vous contentez du fichier corrompu de 2011, parce qu'il y a beaucoup, il y a des décès, il y a des doublons, plus de 800 000 doublons, et il y a des mineurs, les anciens mineurs, qu'on appelle nouveaux majeurs, moi je les appelle les anciens mineurs, ceux qui reviennent toujours eux-mêmes, qui n'ont pas été enrôlés. Si vous voulez vous contenter de ces fichiers, tant mieux. Mais c'est à vous de voir. À ce moment-là, on va respecter les délais constitutionnels. Ben, écoutez, tout homme averti va dire, ben, écoutez, nous, les morts vont voter. Et les doublons vont voter.
Alors, comme ça que vous allez accepter, c'est pourquoi
nous avons refusé ces fichiers électoraux. Une autre option qui nous a été proposée, c'est la révision partielle. Même dans la révision partielle, les morts seront là. Les mineurs seront enrôlés. C'est pourquoi, devant ces faits accomplis, nous avons accepté la refonte totale.
Merci,
pour
professeur.
Gagner des 10 mois comme ça.
Je vous redonne la parole. Merci, d'accord. Professeur. Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, votre lecture par rapport à cet accord qui a finalement été trouvé.
Oui, l'accord a été trouvé. En fait, pour s'exprimer de manière assez intelligente sur la question, je crois qu'il faudra lire l'accord. Parce que jusque-là, nous parlons uniquement de la question de calendrier électoral et donc des séquences électorales, mais aussi du fichier. Mais je crois que dans l'accord, il y aura certainement d'autres aspects qui n'ont pas encore été définis et jusque-là discutés ici.
La grande question qui divisait, c'était par rapport aux séquences.
D'accord, mais pour en arriver là, je voudrais d'abord partir de la stratégie de la majorité. La stratégie de la majorité reposait d'abord sur deux aspects. Le premier aspect, c'était le recensement. Donc, d'abord, c'était le recensement général de la population au travers de l'ONIP. Et cette première élément de stratégie n'a pas réussi. Et donc, ils ont basculé vers une deuxième, qui est le recensement des électeurs. Alors, est-ce qu'il fallait repartir à zéro avec le recensement des électeurs ou il fallait repartir sur l'existant? Alors, ils ont réussi à faire accepter à l'opposition qui était présente de repartir, donc de repartir à zéro, c'est-à-dire de ce qu'ils appellent la refonte. Probablement que si nos amis du Rassemblement étaient là, la rhétorique qu'ils développent aurait peut-être donné lieu à une autre chimie. On allait peut-être déboucher sur autre chose que ce qui est aujourd'hui. Quand j'écoute les discours qui sont développés du côté du Rassemblement. Alors, le problème, c'est que le Rassemblement n'étant pas là, nos amis de l'opposition qui sont là ont accepté, évidemment, qu'évidemment, on puisse refondre et repartir à zéro. Donc ça, c'est le premier élément de la stratégie de la majorité. Le deuxième élément, c'est la séquence des élections. Alors, sur ce deuxième élément, ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils cherchaient. Parce qu'ils voulaient que la présidence soit le dernier scrutin. Mais en fait, là-dessus, il y a une série d'interrogations. La première, c'est que la majorité est restée 10 ans au pouvoir et donc n'a pas su organiser les élections locales. Alors, une question qui se posait, c'est que comment, dans une année, ils pouvaient évidemment être donc envisagés d'organiser les locales. Sinon, que d'entrevoir, de les organiser 3 ou 4 ans plus tard, ce qui pouvait évidemment créer un véritable glissement de très longue durée. Et donc, si vous suivez les discours qui est développé du côté des rassemblements, ce qu'ils accusent, ce qu'ils sont là, d'avoir finalement cédé sur l'un des points essentiels qui finalement officialise le glissement, c'est-à-dire accepter la refonte du glissement quand on sait qu'il va aller au-delà, parce qu'il était aussi, là aussi il faut signaler, que l'un des piliers de la stratégie de la majorité reposait sur la rhétorique des impossibilités. C'est impossible. Et donc, ces impossibilités ont été telles que il était finalement, ils ont développé des argumentaires, certains étaient prévalables, montrant que voilà, il faut absolument, si nous voulons avoir des élections crédibles, oublier l'ancien fichier, repartir avec un nouveau fichier. Mais vous devez savoir que une élection crédible, c'est pas seulement le fichier électoral. Il y a d'autres éléments. Et parmi les éléments, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudra également voir comment la CENI, comment les gens qui ont été au dialogue ont abordé la question de la CENI, parce qu'en fait, aussi bien ce qui était à l'intérieur du dialogue que ceux qui sont à l'extérieur ont beaucoup critiqué la manière dont la CENI a fonctionné depuis un certain temps. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que au moment où on publiait la liste de candidats, je crois c'était du candidat gouverneur, l'ancien président de la CENI s'est exclamé, il dit, mais c'est pas possible. Il faut absolument que la CENI se montre plus ou moins indépendante de la majorité. Et donc, il y a aussi la question de la CENI, donc l'indépendance, l'autonomie de la CENI, qui doit être abordée pour montrer, parce que c'est un élément de crédibilisation du scrutin électoral. Donc, il n'y a pas seulement que le problème du fichier, il y a plusieurs problèmes. Comment assurer la transparence des scrutins électoraux? Vous voyez, aujourd'hui, il y a des problèmes partout au Gabon. Est-ce que c'était un problème du fichier électoral? Est-ce que... Mais on a un problème. Donc, la crédibilité du fichier électoral, donc du scrutin présidentiel législatif, ne vient pas seulement du fichier électoral. Il y a beaucoup d'autres aspects qui doivent intégrer.
Alors, les opposants qui ne sont pas au dialogue... Pour eux, ça, c'était du théâtre et qu'on savait que ça allait se terminer comme ça. Est-ce que vous partagez cet avis, professeur?
Alors, ce point de vue, je parlais de la stratégie de la majorité, mais il faut également parler de la stratégie de l'opposition. Quelle était la stratégie de l'opposition? L'opposition n'avait pas de stratégie au départ. On a vu qui a demandé l'enrôlement de nouveaux majeurs. C'est l'opposition qui a demandé. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'opposition, il me semblait bien que l'opposition n'avait pas une largeur de vue pour regarder de l'avant et voir où est-ce qu'ils avancent. C'est vers la fin qu'ils finalement ils se sont structurés. Merci. Pour définir des positions communes. Et de ce point de vue, c'est cette dernière structuration de la société, donc de l'opposition, qui pouvait lui permettre, si vous voulez, d'avoir une ligne de conduite. Mais je vais terminer
rapidement, professeur.
Je vais terminer en parlant également d'une troisième force, qui est la société civile. Franchement, c'est véritablement un acteur effacé.
Merci. Vous allez revenir peut-être dans le deuxième tour de table. Monsieur Atoun, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Maxime Karila, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et la majorité présidentielle sache en première que c'est elle qui est à l'origine de la crise actuelle pour n'avoir pas financé le processus électoral pendant tous les quinquennats. Ça c'est de un. De deux, si la majorité prône l'intérêt général du peuple congolais, comme elle le prétend, elle n'a qu'à faire concession en optant d'abord pour la présidentielle couplée aux législatives et provinciales, et le reste après, ceux qui s'inscriveraient dans la logique de la Constitution et de la résolution 2277. Car l'opposition de son côté a déjà fait concession en acceptant la refonte totale du fichier électoral, c'est-à-dire 16 mois plus 1 jour. En tout cas, la majorité doit cesser de camper sur sa position, ce qui risquerait de rendre la crise plus dure encore. Juste un minimum de patriotisme de sa part suffit pour que le train retourne sur les rails d'où il est sorti.
Alors, vous comprenez que ces auditeurs ont réagi avant l'accord qu'on a obtenu ce soir. Vous allez quand même dire un mot, M. Atoun. Vous pensez que c'est la majorité qui est à la base de la crise actuelle?
Les faits sont dépassés aujourd'hui par rapport à cette réaction. Donc, on ne va pas remuer le couteau sur la plaie. Nous devons avancer. Entendu le professeur Kabamba, j'ai comme l'impression qu'il présente l'opposition comme un mouton qui s'est présenté au dialogue comme à l'abattoir, sans programme, sans objectif, sans rien. Ce n'est pas vrai. L'opposition a son programme, ses objectifs. Mais sinon, comment expliquer la suspension? C'est qu'ils avaient leurs objectifs. Mais le problème n'est pas là. On ne va pas
C'est pas un coup de théâtre.
C'est pas un coup de théâtre. Les négociations sont faites entre des gens qui n'ont pas la même vision pour atteindre le même objectif, mais qui doivent aboutir à un résultat consensuel pour que le résultat attendu soit atteint. Il ne s'agit pas de pièce de théâtre. Alors, dans ce cas-là, j'ai devant moi un éminent avocat. Ça ne sert à rien de faire la profession d'avocat. Non. Je pense qu'il faudrait que les journalistes puissent aider également la classe politique en les rendant moins égocentriques, moins narcissistes. Les questions malsaines, moi j'appelle ça des questions malsaines. Qui a gagné? Qui a perdu? Je vous dis que personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est la démocratie. Et que, aujourd'hui, la majorité, l'opposition, la société civile se disent que, finalement, mettons-nous d'accord, mais c'est la force des faits et la pertinence des arguments qui ont amené à cela. Alors, où est le mal? Quelle honte y a-t-il à privilégier l'intérêt commun? Le terrain commun n'est pas l'apanage de la majorité, n'est pas l'apanage de l'opposition, c'est l'apanage de l'ensemble de la classe politique. Et donc se dévier le débat. Et en outre, le professeur Kasoki, oui, a prétendu que nous sommes au dialogue pour parler du sort du président Kabila, que nenni. C'est le président Kabila qui a convoqué le dialogue avec un objet bien précis. C'est le processus électoral. Et le problème s'est posé sur l'agencement de ce processus. Ça ne s'est pas posé sur la présence de Kabila au sommet de l'État ou la prolongation de son mandat. Ne soyons pas populistes pour rien. Ce qui est arrivé est à la satisfaction de tout le monde. Il est temps d'avancer. Tout le reste se faire montre, c'est être un peu un mauvais coucheur.
Alors, il y a aussi une autre préoccupation soulevée par le professeur Kasoki. Est-ce que la majorité va respecter cet accord déjà que c'était difficile pour vous de respecter la feuille de route des travaux préparatoires?
Qu'est-ce que c'est qu'une feuille de route? Je vous rappelle que la feuille de route a été établie par la majorité, la société civile et l'opposition. Mais qu'est-ce que c'est qu'une feuille de route? C'est un cadre de réflexion avec des sujets à débattre en commun. Et à la plénière, d'ajouter ou de rétrancher. La feuille de route, disons les travaux du comité préparatoire, n'avaient pas arrêté des décisions, avaient arrêté des sujets à débat. Et lorsqu'on débat de ces sujets, on ne peut pas parler de mauvaise foi. Il faut défendre ses positions. Alors, moi, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que nous sommes dans un monde manichéen.
C'est peut-être...
Où toutes les vertus se trouvent du côté de l'opposition et tous les vices du côté de la majorité.
Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai, madame. Ce n'est pas vrai. Ceci, vous êtes là victime d'un paradoxe démocratique vicieux qui procède du fait que on suppose que celui qui est au pouvoir combat le peuple et celui qui n'est pas au pouvoir ne travaille que pour le peuple. Non, madame, remettons les choses
en
place.
Qu'est-ce qui garantit que vous allez respecter cet accord?
Mais les accords doivent être respectés et appliqués de bonne foi. C'est un principe auquel nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord.
C'était pareil avec les concertations.
Nous sommes tous d'accord que tout doit partir de la Constitution. Nous sommes tous d'accord qu'il faut tenir compte de nos engagements internationaux. Il n'est pas exact de prétendre que le sénateur Cheo Kitundu a rejeté l'accord. Il a expliqué le sens d'une résolution des Nations Unies. La résolution des Nations Unies peut avoir deux dispositions. Disposition contraignante et disposition recommandatoire. Il a dit, en l'occurrence, pour ce cas-ci, il s'agit d'une recommandation, c'est-à-dire une forte exhortation à aller dans un sens. Et en discuter, c'est ne pas pécher, mon Dieu. Sinon, à quoi ça sert le dialogue?
Merci, monsieur Atundu, professeur Kasoki. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu.
Il est comme le Sumba Sumba Isaac depuis Kindu au Maniema. D'emblée, il s'agit de la persistance du blocage parce que chaque parti campe sur sa position. Cependant, j'estime que le blocage est surtout lié à l'accord politique qui doit produire les dix dialogues et peut-être au partage du gâteau, comme c'est souvent la finalité de tout dialogue dans notre pays. Car privilégier la présidentielle après la réforme totale du fichier électoral comme le souhaite l'opposition pro-dialogue est tout simplement égal à la violation de la Constitution. En Suisse, ce dont à quoi les dialoguistes nous font assister est, à mon avis, une pire distraction afin de faire croire au peuple que l'opposition aux assises de la Cité de l'Union africaine s'est bâtie pour ce dernier alors que tout a été joué à l'avance.
Réaction, professeur Kasoki.
Merci, madame. Moi, j'appelle ça procès d'intention. Des procès d'intention a commencé longtemps lorsque l'opposition a marqué son accord pour les dialogues. Vous savez, l'opposition est restée pendant longtemps campée sur sa position, pas de dialogue. C'était à la suite de l'ordonnance du chef de l'État du 30 novembre 2015. Et lorsque vous parcourez cette ordonnance, vous allez vous rendre compte que nulle part le chef de l'État a visé la Constitution. Nulle part, il nous dit, il suffit de suivre tout ce qui se passe, les discours, écouter, aller au dialogue, parler de toutes les questions de la nation. Et finalement, on ne connaissait pas l'objet du dialogue en question. Mais lorsque la résolution 2277 est arrivée, avec des précisions, vous ne parlerez que du processus électoral et vous ne donnerez priorité que à l'élection présidentielle et à l'élection législative. Vous devez tout faire pour respecter la Constitution et la résolution 2277. C'est comme ça que les opposants qui aient refusé les dialogues l'ont accepté. Nous ne sommes pas vus au dialogue à la suite de l'ordonnance, parce que il suffit de lire l'ordonnance, vous allez comprendre que nulle part on ne parle du respect de la Constitution. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que il ne faudrait pas que les auditeurs, les Radio Capi, les peuples congolais pensent qu'il y a une frange de l'opposition qui refuse des dialogues. Il n'y en a pas. Même les opposants qui sont en dehors de la cité de l'OUIA disent que nous sommes d'accord pour les dialogues. Selon la résolution 2277. Mais ils posent des conditions. Et nous qui sommes à la cité de l'OUIA, nous sommes d'accord pour les dialogues et nous sommes là à la cité de l'OUIA. La seule différence, c'est que certains posent des conditions, des préalables, qui n'ont rien à voir avec les processus électoraux. En d'autres termes, vous voulez sacrifier l'essentiel pour les questions périphériques. Je ne néglige pas les questions de détention. Écoutez, lorsque vous récusez Edem Kodjo, vous dites qu'il est kabyliste. Et c'est ça la raison fondamentale. Mais quand on vous pose la question en quoi il est kabyliste...
Il demande aussi la libération des certains prisonniers politiques.
Quand on pose la question en quoi il est kabyliste, et on ne le dit pas. Il suffit de lire les discours du rassemblement du 31 juillet. Vous allez comprendre tout. Les rassemblements font des reproches au chef de l'État. Écoutez, nous l'avons appelé au dialogue, il a refusé, il a utilisé des ruses, et c'est pour cette raison que nous récusons Edem Kodjo. Vous faites des reproches à X personnes, mais vous sanctionnez Y. Ça n'a pas de sens. Et lorsque vous posez des conditions sur la libération des prisonniers, mais nous avons posé ces conditions-là aussi. Nous sommes entrés au dialogue, nous avons insisté. Vous avez appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a encore d'autres mesures qui ont été prises. En d'autres termes, on ne peut pas jeter les bébés avec l'eau du bassin. Il faudrait regarder ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour le moment, madame, c'est l'alternance démocratique. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les élections soient organisées, principalement l'élection présidentielle, dans le respect de la Constitution? Comment faire pour que notre Constitution soit respectée? Comment faire pour que monsieur l'actuel chef de l'État ne puisse pas se représenter?
Alors on apprend que l'opposition au dialogue demande la restructuration de la CENI et même la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Madame, et pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas d'élément, mais pour la CENI, écoutez, nous avons suivi la CENI, a exposé au dialogue. Mais la CENI est de mauvaise foi, madame. Comment vous allez garder la CENI dans sa structure actuelle, sans être récomposée, et vous allez compter sur des élections, comme on le dit, crédibles? Non. Moi, j'ai suivi les débats, j'ai suivi l'exposé de M. Corneille. Corneille nous montre qu'en 2006, il y avait 5 scrutins sur 11 qui ont été organisés. Il nous montre en 2011...
Mais vous avez des délégués à la CENI, vous, de l'opposition.
Il nous montre en 2011 deux scrutins sur 11. Deux scrutins sur 11. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait signer par là? Il voulait dire, si on s'en était pas ému sur les deux scrutins sur 11, pourquoi s'en émouvoir s'il n'y en a pas un?
Merci, professeur.
Donc, il y a un problème de mauvaise foi. C'est pourquoi nous devons, au fait... recadrer la CNR.
Merci.
Pour éviter que l'on puisse aller encore des glissements en glissement, madame.
Et professeur Félicien Kavamba, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de N'Djamena au Tchad.
Emmanuel Ilunga de N'Djamena au Tchad. Si les acteurs politiques congolais commencent à se tirailler sur la question de l'ordre de la tenue des échéances électorales, que faut-il attendre alors de la question sur la personne qui va conduire cette période transitoire? Je pense que ce sera la fin en catastrophe de ce dialogue. Je me pose alors la question, l'opportunité de la tenue de ce forum, qui n'apportera que des problèmes au vécu du peuple congolais, malgré déjà tant de promesses par la suite des politiciens, une misère criante et des tueries au quotidien à l'est du pays.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur?
Non, mais je crois que l'accord politique dont on parle, il faut quand même qu'on l'aille. Il faut qu'on l'aille, qu'on lise l'accord et qu'on comprenne véritablement quels sont les éléments qui constituent l'accord. Aujourd'hui, il y a deux éléments. On nous a parlé du calendrier, disons, du fichier et de la séquence des élections, mais il y a d'autres éléments. Et je peux vous dire que le temps qui a été mis, parce que maintenant c'est le deuxième ou troisième jour, de suspension, ce temps a permis également d'avancer sur d'autres questions, autres que la question des séquences électorales. Ça veut dire qu'il y a eu probablement des questions du gouvernement, formation du gouvernement, ou si vous voulez, élargissement du gouvernement. Il y a également des questions sur la CENI qui ne sont pas médiatisées, mais qui certainement ont fait l'objet de plusieurs tractations pendant ces temps de suspension. Tout le problème, c'est que quand on est au micro, on donne des avis techniques sur des aspects et sur d'autres, on s'est dit, ça, on va le régler entre nous. Et c'est l'accord qui va nous donner de plus amples informations sur, finalement, qui a cédé quoi. Qu'est-ce que la majorité a véritablement cédé et qu'est-ce que l'opposition a cédé? C'est l'accord qui va nous déterminer. Et aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir faire de bonnes analyses sans qu'on ait cet accord. Mais l'accord va également poser un autre problème, c'est parce que l'un des problèmes des accords, c'est sa mise en pratique, le respect des accords signés. Non seulement qu'il y a le respect des accords, mais il y a aussi la réaction de ceux qui ne seront pas signataires de l'accord. Je parle là du rassemblement qui constitue aussi une force politique importante. Mais je voudrais quand même terminer en parlant d'une troisième force.
La société civile.
La société civile. Voilà un groupe qui n'a pas conscience de son existence. C'est véritablement un groupe qui n'a pas non plus conscience de son rôle et qui n'a pas non plus échappé à la clientélisation des forces politiques qui l'ont complètement neutralisé. Vous avez l'impression que la société civile était totalement absente. On pose aujourd'hui la question de savoir véritablement quelles sont les finitudes d'une telle société civile. Et c'est vrai qu'au niveau de la théorie, on semble dire qu'en Afrique, la société civile est en construction. Mais je crois qu'il faut reposer la question.
Il y a quand même moins de délégués à ce dialogue, la société civile.
Le problème du dialogue n'est pas le nombre. N'est pas le nombre. Parce que même les gens de l'opposition qui sont sortis sont à combien? Quand on sait que cette opposition, qui est également... On connaît bien les divergences qu'il y a eu au début entre l'opposition républicaine et l'UNC, on connaît bien. Mais ils étaient là. On entendait au moins les sons des cloches des uns et des autres. Pour la société civile, je vous assure, on a l'impression que c'était véritablement... on a eu affaire à une sorte de participation moutonnière.
Alors, je voudrais avoir votre point de vue, professeur, sur la déclaration de M. Alexis Tambay qui dit que la RDC va financer seule les élections. On est capable.
Alors, moi, je ne connais pas l'état actuel des finances congolaises. Et donc, quand M. Alexis Tambwe Mwamba déclare comme ça, en tant que ministre,
J'espère qu'il a les données à partir desquelles il fait cette telle déclaration. Je crois que c'est quand même une déclaration proposée et qui peut-être traduise l'élan souverainiste du gouvernement, mais qui va être très difficile à être traduit en acte quand on sait que le gouvernement n'a pas de moyens, il va donc recourir à la CENI, et que donc, même quand on parle de financement, mais en fait, le recours à la CENI, c'est aussi, je vous assure, un moyen, donc, parce que la CENI va mettre à disposition un certain nombre de moyens matériels qui ont un coût. Et donc, dire que c'est le gouvernement seul qui portera les coups, ce n'est pas exact non plus.
Monsieur André Alain Tundou, le facilitateur, annonce la reprise des travaux du dialogue pour demain après-midi. Y a-t-il encore d'autres questions qui doivent être débattues au dialogue ou après ce déblocage, ça sera la clôture ou la fin du dialogue?
Non, on continue les travaux jusqu'à sa clôture. Mais je voudrais... Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'accord. On va continuer jusqu'à ce qu'on le termine. Mais je ne peux pas laisser passer cette ignorance volontaire et intentionnelle du professeur Kasoki sur l'objet de l'ordonnance du chef de l'État. Il s'agit d'un processus. Cette ignorance ne sert pas la vérité, la réalité des choses. Il faut éviter ce genre de choses. Parce qu'en tout état de cause, est-ce qu'il s'agit d'un autre dialogue? C'est le dialogue convoqué par le chef de l'État Kabila.
C'est tout. Conformément à la résolution.
Conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution et à tous les instruments internationaux auxquels nous avons adhéré. Point barre.
Pourquoi vous ne citez pas la résolution?
Pourquoi vous parlez
des instruments?
Mais au-delà. Non.
La résolution 2276.
Je veux dire qu'il n'y a pas que la résolution 22. Il n'y a pas que la résolution 2277. L'accord cadre et tout ça, tous ces éléments. C'est regroupé autour de l'expression, eh bien, les instruments internationaux auxquels nous avons adhéré. Deuxièmement...
Alors, vous allez aussi conclure, monsieur Atunda.
Oui, je vais conclure. La contestation de la CENI relève aussi d'une procédure, une fallacieuse problématique. Aujourd'hui, la CENI comprend la majorité, l'opposition et la société civile. La problématique posée par une partie de l'opposition et aujourd'hui participe de leur lutte pour le leadership interne au sein de l'opposition. Ils ne sont pas d'accord avec l'opposition républicaine, ils ne sont pas d'accord avec le rassemblement, etc. Et le pays ne peut pas être pris en otage ainsi. Il faut qu'il fasse montre un peu de plus d'ouverture, n'est-ce pas, qu'il s'assume. Alors, troisièmement, tout le monde, j'ai comme l'impression... dit, bon, si ceci est arrivé, c'est parce que la majorité a plié genoux, c'est parce que nous avons été le plus fort. Non. Nous travaillons sur la base d'un certain nombre de principes. La force des faits, je vous l'ai dit, lorsque le fait s'impose, il faut s'incliner. La pertinence des arguments, lorsque vous n'avez rien contre un autre, eh bien, il faut, par l'honnêteté intellectuelle, l'accepter. Et puis l'esprit d'ouverture, c'est-à-dire cette volonté de vouloir préserver et sauver le système démocratique pour le développement de notre pays.
Merci, monsieur Atundou. Professeur Kasoki, votre conclusion. L'opposition doit s'assumer.
Madame, il faudrait préciser d'abord une chose. Lorsque nous sommes allés au comité préparatoire, l'ordonnance du chef d'État a été élaguée de nos discussions. Et nulle part on en parle. Il suffit de dire la feuille de route. Nulle part on parle de cette ordonnance du 30 novembre 2015. Ça, c'est juste une information. Et un peu comme pour dire que ce qui nous intéresse, c'est la résolution 2277 et la Constitution. Mais écoutez, l'accord qui venait d'être obtenu au forceps, là, c'est juste sur un des points qui ont été examinés. C'est en fait la question de la séquence des élections, une question examinée par la commission élections. Lorsqu'on ne sont pas mis d'accord, nous avons demandé à toute l'opposition de sortir du dialogue.
Les travaux vont
se poursuivre, il y aura encore d'autres questions qui seront posées, et nous, notre guide, c'est la Constitution et la résolution 2277. Si
et
tout le monde respecte cela,
si tout le monde respecte le délai.
Non, nous pouvons finir ce dialogue demain ou après-demain.
Merci.
Question que tout le monde se mette d'accord sur les points qui ont été posés par la résolution 2277.
Merci, professeur Kasoki, professeur Félicien Kabamba. Un mot en guise de conclusion.
En tout cas, j'aurais souhaité un accord auquel toutes les parties ont, disons, un accord accepté par toutes les parties, mais malheureusement, nos amis du Rassemblement ne sont pas partis. Et donc, du coup, on a là un accord entre une partie de l'opposition et la majorité.
Merci, professeur Félicien Kabamba. C'est la fin de cette émission. Bonne suite au programme sur la fréquence de la paix.